Les Plumes sur RCN, présenté par Mona.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Benoît Fourchard pour son roman Martha, publié chez Feedback Édition. Avec nous également Raymond Hisse qui viendra nous présenter un concours d'écriture, le prix de la Cour de l'imaginaire. Bonjour messieurs.
Bonjour.
Bonjour.
Alors Benoît, vous écrivez des pièces de théâtre, des scénarios, des nouvelles et des romans. Vous êtes également comédien, metteur en scène et co-organisateur à Nancy du Festival de la Nouvelle, les 12 000 signes. Une vie bien remplie ?
Oui, assez, oui, ça fait quelques années, donc que dire ? Oui, c'est vrai que j'ai beaucoup d'activités qui sont un petit peu liées les unes aux autres malgré tout, mais...
Oui, mais enfin quand même différentes. Vous changez de casquette quand même assez souvent.
Oui, c'est sûr. Il y a d'un côté l'écriture, tout ce qui est roman, nouvelle, etc. Et puis d'un autre côté, la compagnie de théâtre Les Fruits du Hasard, donc, qui est porteuse de ce festival et productrice de spectacles, donc, laquelle je travaille depuis une vingtaine d'années maintenant.
Mmh. Alors Martha, le personnage central de votre roman, est la tante du narrateur Rémi. Avant de parler de Martha, nous parlons un peu de Rémi, si vous le voulez bien. C'est un rêveur ou un homme qui ne s'est jamais remis de son enfance ?
Alors c'est un peu les deux, mais enfin c'est un personnage assez complexe comme tout être humain. Alors le personnage principal effectivement de Martha, en fait c'est le titre du roman est le personnage principal, mais en fait on ne la voit jamais, enfin ou très peu, très peu en tout cas elle parle pas. Et effectivement Rémi il a eu quelques petits soucis familiaux comme tout à chacun on va dire, et cette histoire avec Martha va révéler plein de choses chez lui. Alors ce qui est important dans cette histoire c'est que son père, hein, le père de Rémi, donc Rémi il a une petite cinquantaine d'années, il vit en région parisienne, il est graphiste, il voudrait bien, il rêve justement de faire un roman graphique, mais il procrastine un peu, donc il remet toujours un peu au lendemain. Et un jour, son père lui téléphone, son père qui est médecin, enfin médecin en retraite, et il lui demande d'aller vider la maison de sa tante, donc la sœur de son père, qui vit dans une grande maison à Saint-Dizier, la maison d'une famille qu'il n'a jamais revue depuis une trentaine d'années. Donc lui, comme il est plutôt de nature assez gentil et puis qu'il a toujours un peu craint son papa, et ben il accepte d'y aller, il prend une semaine de congé et il va découvrir la maison de Martha, donc à Saint-Dizier, pas très loin d'ici. Et il se rend compte que cette tante Martha, dont il avait un souvenir très, très flou, une tante un peu fantasque, etc., qui attirait un petit peu d'ailleurs les fantasmes de tout le monde, et ben en fait, elle est atteinte du syndrome de Diogène, qui est... Le problème, enfin une maladie vraiment, de gens qui compilent tout chez eux. Oui. Donc il arrive dans cette immense maison où il se retrouve devant un capharnaüm gigantesque.
Ah, oh, c'est même plus que ça.
C'est plus que ça, même,
oui.
Bien sûr.
Oui.
Et donc il est censé vider cette maison. Alors il se trouve qu'il y a son frère Gilles qui habite à côté de Saint-Dizier, qui habite Bar-le-Duc, et qui se trouve être agent immobilier. Donc il se dit, bah tiens, peut-être qu'il va pouvoir m'aider. Puis en fait, le frangin se débarrasse vite fait de...
De la corvée, oui.
De la corvée, qui est aussi quelqu'un d'assez autoritaire. Et du coup, Rémi se retrouve à vider tout seul la maison de sa tante Martha. Quoi.
Oui.
Où là, évidemment, il va découvrir plein de choses, non seulement des objets, mais aussi plein de souvenirs et de tas de choses qu'il va apprendre sur sa propre vie. Quoi.
Oui. Parce que Martha, c'est pareil, il ne l'a pas vu depuis 40 ans non plus. Hein.
Depuis, oui, c'est ça, une trentaine d'années.
Oui, tout à fait. Et donc, le syndrome de Diogène, parlons-en, parce qu'effectivement, ça fait référence à Diogène de Sinope, mais en même temps, lui vivait dans le plus grand dénuement. Alors, on ne sait pas pourquoi ce syndrome s'appelle comme ça.
Alors, j'avoue que j'ai fait quelques recherches et je n'ai pas de réponse. Pourquoi est-ce qu'on appelait ce syndrome le syndrome de Diogène, alors qu'effectivement, Diogène, il vivait dans un tonneau. Et c'est exactement le contraire. Alors, est-ce que c'est par une forme d'antiphrase ? Je ne sais pas. En tout cas, oui, c'est bien identifié, hein, c'est bien une maladie bien répertoriée qui atteint souvent des personnes assez âgées, mais pas que. Et depuis que j'ai fait ce livre, dans tout un tas de salons et d'endroits, un tel, mon frère a cette maladie-là, mon père qui n'a que 50 ans a cette maladie-là, mon mari, même une personne qui m'a dit ça un jour, mon mari est atteint de... On n'invite plus personne parce que plus personne ne peut rentrer chez nous, quoi. Il n'y a plus de place, quoi.
Ah oui, d'accord, mais il n'y a pas beaucoup de place pour elle non plus, du coup.
Eh ben non, mais elle vit du coup avec ça, et en fait, c'est une véritable maladie, oui.
Oui. Et c'est, à un moment, vous écrivez pour tout conserver, pour ne rien oublier. C'est ça, leur...
Alors, c'est peut-être un peu ça. Alors, il y a évidemment toute une histoire qu'on ne va pas tout raconter.
Bien sûr, pas non.
Mais il y a toute une histoire qu'on comprend au fur et à mesure de ce qu'était Martha, de l'image qu'elle avait, il y a une chose qui est importante, c'est qu'elle avait une image dans la famille, c'était un peu le mouton noir de la famille. Donc les frères étaient médecins, le père était médecin, et elle, elle a décidé de vivre sa vie un petit peu comme elle l'entendait. Donc elle a été, elle a fréquenté des guitaristes de rock des années 70. Puis on apprend tout ça au fur et à mesure, évidemment. Comment Rémi apprend tout ça en découvrant tout ce qu'il trouve chez elle, notamment des pochettes de disques de vinyle avec des dédicaces, etc. Bon voilà. Et puis bon, il a des souvenirs qui reviennent comme ça au fur et à mesure. Il se réapproprie en quelque sorte sa mémoire qu'il avait un peu oublié, et il se reconstruit grâce à ça. Donc le personnage de Rémi, évidemment, évolue aussi en fonction de... grâce à cette tante, Martha.
Mmh. Alors Martha avait complètement coupé les ponts avec sa famille, comme Astrid, la sœur de Rémi. Alors elles avaient l'air d'étouffer un peu dans cette famille. Il faut dire que le père de Martha et le père de Rémi, c'était plutôt épouvantable. Ce sont des personnages épouvantables.
C'est des personnages comme on en trouve... finalement dans beaucoup de familles, hein, un père autoritaire, le grand-père était également autoritaire, et puis on se rend compte aussi qu'il avait tout un tas de défauts. Hein,
un peu maltraitant quand même.
Carrément maltraitant, tout à fait. Et évidemment, Rémi ressort un peu tout ça, alors c'est pas du tout psychologisant, mais l'idée c'est qu'effectivement il y a des choses qui ressortent et qui se disent « mais j'ai accepté beaucoup de choses de la part de mon père, entre autres, et de son frère aîné, qui était aussi maltraitant avec lui, qui continue d'ailleurs à être... assez maltraitant avec ses propres enfants. Donc,
Bien sûr. Donc
il y a toutes ces choses-là, effectivement, qui ressortent de par cette situation particulière de vider cette maison. Quoi.
Oui, oui, oui. Mais bon. Alors, Martha décède, de toute façon, on le sait assez rapidement, hein, bien sûr, que de toute façon, elle n'y échappera pas.
Oui, alors voilà, en fait, il doit aller vider cette maison, parce qu'en fait, elle est atteinte d'un cancer de l'intestin. Elle a été hospitalisée en pesant plus que 40 kilos. Oui. Elle ne se nourrissait plus. Mais bon, il se trouve qu'elle ne vivait pas toute seule.
Justement, oui. Alors, la famille est réunie pour la lecture d'un testament, un règlement de compte, en fait.
Ah oui, alors ça, c'est la fin, évidemment, autour du notaire.
Oui, c'est assez rigolo.
Où, bien sûr, il y a une sorte de twist à la fin, où il se passe des choses qu'elle, elle avait un petit peu prévues. Enfin, il ne faut pas trop en dire.
Hein. Non, bien sûr.
Voilà, donc...
Alors, il y a de beaux personnages dans votre récit, Boris notamment, et les voisins de Martha. Alors, Boris, c'est un homme paumé.
Alors, en fait, Rémi, quand il arrive dans cette maison, qui est très grande, elle doit faire peut-être 200 mètres carrés, hein, une maison un peu à l'ancienne. Enfin,
oui.
Et donc, il se rend compte que Martha, elle ne vivait pas toute seule. Tout le monde pensait qu'elle était célibataire, qu'elle n'avait jamais eu d'enfant, etc. Et il tombe sur un personnage très un peu baroque qui s'appelle Boris, qui vit à moitié nu dans cette maison, qui ne sort jamais, personne ne sait vraiment d'où il vient. Et donc, ce personnage qui est très antipathique au départ, il va finir par se lier quand même avec lui. Et évidemment, ce personnage a également tout son parcours dans l'histoire. Et évidemment, va aussi avoir sa conclusion.
Oui. Alors, en revanche, à part Martha, les femmes, que ce soit la mère de Martha, celle de Rémi, Edith, ou encore la sœur Astrid, sont assez inexistantes. Alors, pourquoi ce parti pris? Vous les avez un petit peu...
Je ne sais pas si elles sont inexistantes, mais il y a Martha, quand même.
Oui, bien sûr, oui.
Alors, elle est... Et puis, il y a quand même... tous les personnages féminins sont plutôt... plutôt positifs.
Oui.
La sœur de son frère, donc sa belle-sœur, est quelqu'un de plutôt bienveillant. Sa propre femme. Mais en fait, c'est des personnages qui sont un petit peu...
Périphériques.
Un petit peu effacés, mais pour les besoins de l'histoire. Ce n'est pas pour effacer, au contraire. Hein. Mais en même temps, je pense que ce sont tous les personnages qui le font, lui, avancer. Quoi. Notamment sa compagne.
Oui, bien sûr.
Qui, de très très loin, on la voit qu'au début, et puis après, il correspond avec elle que par téléphone. En fait... C'est elle qui le fait avancer aussi. C'est parce que c'est le regard qu'elle lui apporte qui lui dit « mais il faut que tu te bouges un peu ». Il y a la voisine également qui est très particulière. Enfin, il y a tous ces personnages. En fait, le personnage principal est un homme, mais en même temps, tous les personnages secondaires, il y a quand même beaucoup de représentations féminines que j'ai souhaité assez... importantes dans l'histoire et qui font vraiment évoluer le personnage
principal. Oui, bien sûr, sauf Astrid et Edith, dont on n'entend presque pas parler. Astrid, pas du tout. Edith, très peu.
Non, elle a disparu. Et Edith, la maman, on a compris que les parents de Rémi avaient divorcé depuis très longtemps et que ce père médecin et t'es remarié avec une jeune femme qui a l'âge à peu près de tes enfants. Quoi. Enfin, c'est aussi une situation un peu classique.
Alors, vous voulez bien nous lire un extrait de votre livre que j'ai choisi ?
Oui, un extrait que vous avez choisi, donc.
Oui, oui.
Donc, qui est déjà bien avancé dans l'histoire. J'arrive devant chez Martha sans rien avoir vu du parcours. Une demi-heure qui n'a pas existé. Une demi-heure perdue dans cette histoire qui s'esquisse. Ma vieille bagnole m'a conduit jusqu'ici, automatique et sans conscience. Je devrais m'inquiéter de ce trou dans l'espace-temps, ou m'interroger sur la capacité de l'être humain à absorber des situations, à en faire abstraction, oublier, passer à autre chose, ou encore à transformer l'événement en un autre matériau, un fond de sauce, un décorum, un contexte. En tout cas, on pourrait se demander comment la voiture m'a ramené jusqu'ici sans accident ni erreur de parcours, sans la moindre pensée pour mon frère Gilles et mon départ en fanfare, sans même avoir visualisé le chemin parcouru, ni les abords de la ville, ni les camions, les ronds-points, les carrefours, les feux rouges, la vieille dame, les mamans, les poussettes, les cyclistes. Je suis là, rue des petits abattoirs, je sors de la voiture. Madame Moujon, la voisine, droite et sèche et sans sourire, est devant la grille de son jardin. On dirait qu'elle m'attend. Je ne veux pas non plus m'interroger sur la raison pour laquelle elle est là, à me guetter, avec la certitude de mon heure d'arrivée pourtant inhabituelle. En tout cas, impossible de l'éviter. Il faut se rendre à l'évidence, le jour de l'apéro chez Madame Moujon a probablement sonné. Même s'il est déjà presque 23 heures et qu'on imaginerait plus volontiers la dame une tasse de tisane à la main. Bon, après tout, ce sera fait. « Bonsoir, Madame Moujon. Très bien, jeune homme, vous n'avez pas écorché mon nom. Vous avez mérité un petit apéritif. Vous venez ? Un apéritif ? À cette heure-ci ? Ah, si vous préférez une cerise à l'eau de vie, il n'y a aucun problème. »
Merci. Alors, j'ai remarqué que lors de description, vous n'utilisez pas de virgule, notamment dans ce passage.
Pas toujours, mais ça arrive, effectivement, quand il y a des passages. En fait, mais ça, c'est une sorte de forme que j'utilise depuis longtemps, notamment dans la nouvelle, on en parlera. Mais ça permet à des moments de faire accélérer le rythme. Quand il y a quelque chose ou une description, on sent... Et puis, comme là, en l'occurrence... Alors, évidemment, ce passage-là, il n'est pas très représentatif de ce qu'il est obligé de faire dans cette maison. Mais il y a quand même toujours des moments où il y a des choses qui s'accumulent, comme dans la vie, hein, et que, du coup, le fait d'enlever les virgules permet d'avoir comme si c'était un flot continu, quoi, en quelque sorte.
Oui, d'accord. Alors, ce roman se lit presque comme un roman policier. On a envie de découvrir les secrets de famille, les non-dits. Alors, ce récit est presque trop court. On se demande s'il y aura une suite. Parce qu'on se demande comment vont évoluer Rémi et les autres.
C'est plutôt bon signe si vous l'avez trop court, vous l'avez trouvé trop court. C'est que...
oui, c'est...
On ne sait que le contraire d'un roman qui n'en finit pas.
Oui.
Alors, est-ce que c'est peut-être à la fois la déformation, entre guillemets, de l'écriture théâtrale ou encore plus celle de la nouvelle? Mais c'est vrai que j'aime bien les histoires qui ne s'appesantissent pas trop longtemps sur des descriptions trop longues. Je pense que, il me semble que ça ne nécessitait pas plus de développement.
Ah non, mais
c'est une frustration, parce
voilà,
qu'on a envie...
On a envie de savoir. Alors, non, en même temps, ce livre se termine tout à fait normalement. Je veux dire, on peut se contenter on peut se contenter de refermer le livre. Mais voilà. Moi, j'aurais aimé...
Moi, je prends ça comme un compliment.
Ah, mais c'en est un.
Après, c'est vrai que, alors, il n'y a pour l'instant pas de suite de prévu, puis une suite, ça serait un peu compliqué, parce que du coup, l'histoire se termine quand même.
Oui, bien sûr.
Alors, peut-être faire...
Un pan d'histoire se termine.
Oui, ou un pan de l'histoire. C'est vrai qu'on pourrait imaginer des choses. C'est sûr qu'il y a des pistes qui sont ouvertes. C'est aussi, ce que j'aime bien aussi, mais même aussi, ça c'est un peu comme dans la nouvelle, c'est que c'est un petit peu au lecteur d'imaginer des choses aussi, que tout ne soit pas bouclé, quoi.
Oui.
Peut-être il y a des choses qui se disent, bah tiens, et s'il se passait ci ou ça, etc. Voilà. Ben, après...
Donc c'est au lecteur à réécrire une autre histoire.
Ah ben, pour l'instant, c'est pas dans les tuyaux, mais on ne sait jamais.
Alors le dessin sur la première de couverture est magnifique. C'est vous qui l'avez choisi ? Et qui en est l'auteur ?
Non, c'est l'éditeur qui a proposé ça, puis je trouvais que ça correspondait... Au départ, le titre avait beaucoup été changé.
D'accord.
On avait appelé ça le syndrome de Diogène, puis après le syndrome Martha, etc. Le fatras de Martha, enfin, il y a eu tout un tas de titres. Et quand il a proposé la couverture, ça, le simple nom du personnage et cette couverture-là avec donc cette sorte de brouillage dans la tête
de Martin,
ça semblait bien représenter le personnage et l'histoire.
Oui.
Donc c'est effectivement un choix de l'éditeur qui, quand il me l'a proposé, ben on est tout de suite tombé d'accord immédiatement en disant ben c'est sûr que c'est ce qu'il faut, quoi.
Alors, la littérature permet de donner la parole à tous ces anonymes qui souffrent, qui se débattent et qui essaient de trouver une solution. C'est ça qui vous intéresse ?
Oui, ben après, est-ce qu'ils trouvent des solutions ? C'est jamais sûr, mais ce que j'essaie toujours de faire dans des histoires, ce qui n'est pas toujours évident, c'est que tous les personnages qui sont esquissés, ils ont un début, un milieu, une fin et une problématique qu'ils vont résoudre ou pas, d'ailleurs. Mm-hmm. Mais comme d'ailleurs dans tout type d'écriture, c'est vrai qu'évidemment dans un roman on multiplie le nombre de personnages, mais pour moi il faut quand même qu'ils aient une sorte de... qu'on les abandonne pas. Je pense qu'on a le cas des fois au cinéma, on se dit bah tiens, pourquoi ce personnage-là il a pas une suite dans l'histoire, ou qu'est-ce qu'il devient ?
Oui.
J'aime bien quand même que les personnages, alors je sais pas si j'y réussis, mais donc qu'ils aient vraiment une histoire à part entière, même si c'est un personnage secondaire ou... Par exemple, à un moment, il rencontre un des ex-voisins de Martha, donc un type qui vivait à Saint-Dizier, qui a plus de dents, et on sent bien que ce type-là, il a eu toute une histoire avec toute la famille qui a vécu dans cette maison. Et donc, ça raconte aussi quelque chose, une sorte de... Par exemple, c'est vrai que dans les histoires, j'aime bien tirer des tiroirs, en quelque sorte, faire des digressions. Et des personnages comme ça, c'est une digression, mais en même temps, qui rééclaire d'une autre manière les personnages principaux de l'histoire.
Mmh. Alors, John Bulit, votre ami, nous a rejoint. Il a lu ce livre. Qu'est-ce que tu en as pensé, Jean-Jacques ?
Ah ben, c'est super bien écrit.
Ouais.
C'est bien écrit, c'est bien équilibré. À l'intérieur, on y trouve beaucoup de choses. Et puis, l'intrigue avance petit à petit. Et du coup, c'est passionnant pour le lecteur.
Merci beaucoup.
Alors, nous allons faire une pause musicale. Et nous revenons après une chanson qu'aurait certainement apprécié Martha, Perfect Day, par Lou Reed.
Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. A perfect day. Problems all left alone. Weekenders on our own. It's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep. Just what you saw.
just what you sow. You're going to reap just what you sow.
Les plumes sur RCN, Mona.
Nous sommes toujours avec Benoît Fourchard, venu nous parler de son roman Martha, publié chez Feedback Édition. Avant d'aborder les autres ouvrages de Benoît, parce qu'il y en a, Raymond Hisse va nous présenter le concours d'écriture de la Cour de l'Imaginaire.
Oui, alors la Cour de l'Imaginaire organise un concours d'écriture chaque année depuis maintenant 12 ans, afin de permettre à un auteur débutant, pas forcément quelqu'un qui a pu écrire éventuellement des nouvelles, publié dans des revues, mais qui n'a jamais été publié à titre personnel, permettre à un auteur débutant d'être enfin édité, ceci en partenariat avec un éditeur. Donc nous lançons ce concours de nouvelles, les auteurs sont invités à nous envoyer leur tapuscrit. La séquence de cette année donc s'achève le 31 janvier 2025, donc vous avez, si vous taquinez un peu le clavier, vous avez jusqu'au au mois de janvier 2025 pour nous envoyer votre tapuscrit. Alors je précise que ça concerne uniquement les domaines des littératures de l'imaginaire, c'est-à-dire la science-fiction, la fantasy et le fantastique. Ça peut être un roman, un recueil de nouvelles, mais limité à ce genre-là. Et ça permet à cet auteur d'avoir une édition, mais véritablement un compte d'éditeur. Alors nous avons déjà, ce concours existe depuis 2012, et nous avons donc déjà mis le pied à l'étrier à une bonne douzaine d'auteurs depuis cette époque. Et nous les suivons, c'est-à-dire que ça les a encouragés à écrire. Et la plupart d'entre eux ont continué donc à progresser, à écrire, à sortir des romans, des recueils de nouvelles. Et l'une de nos autrices, Claire Garand, a obtenu l'an dernier le prix Julia Verlanger, qui est un grand prix de la science-fiction, pour son roman Paidea. Donc, si vous sentez d'attaque, il vous reste 6 à 7 mois pour vous mettre au travail et nous envoyer vos tapuscrits. Donc, pour tout renseignement et toute information, notamment pour le règlement de ce concours, vous allez donc sur Internet, sur lacourdelimaginaire.com. Voilà, donc je vous encourage et j'attends avec impatience votre tapuscrit.
Merci. Donc, à votre ordi, parce que si c'est un tapuscrit.
Oui, manuscrit, c'est passé de mode. Hein.
C'est passé de mode. Ah, il y en a encore qui écrivent à la main, ou non? Directement sur écran.
Non, j'écris à la main et après je...
Après vous retapez.
Comme... Après, je ne présente pas le travail écrit à la main à quelqu'un, parce que c'est illisible même des fois par moi. Hein. Mais c'est toujours, il y a ce besoin d'avoir recours à l'écriture manuscrite, je ne sais pas pourquoi, et j'ai j'ai toujours besoin de faire une sorte de brouillon, quoi.
Oui, bien sûr. Et toi, Raymond, tu écris comment ?
J'écris directement au clavier, par peur d'être dans l'impossibilité de me relire. Donc, mais c'est plus facile à corriger, à modifier. Enfin, depuis que j'ai un ordinateur, j'écris directement sur l'ordinateur.
Et toi ?
Moi, je préfère d'abord l'écrire sur la machine, enfin sur l'ordi. Mmh. Et puis ensuite, par contre, il faut que je le voie en papier. Je m'aperçois d'autre chose quand je le tire, quand c'est vraiment sur un papier. Pour moi, c'est différent de l'écran.
Moi, c'est
pareil. C'est un peu bizarre, toi aussi.
Oui, moi c'est pareil. Enfin, c'est pas, même pour lire, moi, simplement.
Oui.
J'aime pas lire sur tablette, sur ordi, je supporte pas. Mais bon, c'est moi. C'est peut-être un peu l'âge, j'en sais rien. Ceux qui sont nés avec les ordi ou les portables, je ne sais pas. Je ne sais pas s'ils sont...
Jeune Benoît Fourchard, il est né avec un ordi dans la main.
Oui, mon jeune, c'est sûr.
Alors Benoît, vous avez également publié au Seuil, Ida la Bleue, un roman pour les ados, donc qui se lit à partir de 13 ans.
Là, j'ai 13 ans. Oui.
Oui, vous voulez bien nous présenter ce roman que je n'ai pas lu, je l'avoue.
Alors, Ida la Bleue, donc, on est dans une forme de dystopie. C'est l'histoire d'une jeune fille qui a une quinzaine d'années, qui a les cheveux bleus. On comprend au fur et à mesure de l'histoire pourquoi elle a les cheveux bleus, mais à cause de ses cheveux bleus, elle est ostracisée. C'est-à-dire que c'est, on est dans un pays, donc on est dans un, là, on est dans les, dans la, dans l'imaginaire ou dans le, dans un futur plus ou moins proche. On ne sait pas exactement dans quel pays, mais enfin, on peut imaginer que c'est la France. Et donc, elle est sur une roulotte et elle était jusqu'à présent enfermée dans un, une sorte de pension assez autoritaire. Donc, elle s'en est échappée pour aller délivrer son amoureux qui est enfermé dans la prison du bout du bout. C'est une prison qui est située sur une île toute de l'autre côté du pays. Donc, elle doit traverser tout ce pays avec sa roulotte. C'est un pays qui est dévasté par la pollution, par les dictatures locales, etc. Et très rapidement, elle rencontre une très, très vieille femme, peut-être d'une centaine d'années, qui s'appelle Félicité. Et ensemble, alors là, on est avec que des personnages féminins puissants, on va dire. Et donc, cette femme, donc Félicité, qui pourrait être son arrière-grand-mère, c'est elle qui va raconter à Ida quel était le monde à l'époque où il y avait des voitures, des téléphones portables, des ordinateurs, le monde qu'elle n'avait évidemment pas connu. Mm-hmm. Alors, il y a tout un tas de rebondissements, comme souvent dans ce genre de roman, c'est un road movie assez lent, hein, parce que c'est avec une roulotte et un cheval.
Oui.
Bon, elle est accompagnée aussi d'un chat chanteur. Enfin bon, il y a toutes des choses un peu mystérieuses comme ça. Et donc, elle traverse tout ce pays. Elles affrontent tout un tas de problèmes plus ou moins graves. Les dictateurs locaux, des problèmes climatiques. Voilà. Et elles arrivent finalement. Alors, il y a aussi des personnages positifs qui sont avec eux. Il y a des personnages qui se regroupent. Donc, il y a quand même un espoir à la fin. Quand va-t-elle ou pas délivrer son amoureux? Ça, je ne vais pas vous le dire.
Ben non, bien sûr.
Mais en tout cas, il y a quelque chose qui permet de donner un espoir. C'est quand même de la littérature jeunesse. Et dans ce contexte bien sombre dans lequel on est en ce moment, particulièrement,
oui,
on a envie un petit peu aussi que, bah, d'avoir quelques lueurs d'espoir dans ce monde. C'est un monde assez pessimiste, mais en même temps, c'est ce qu'on nous annonce un petit peu si on ne fait pas attention aux problèmes climatiques. Donc, on parle vraiment du problème du climat, mais aussi de tout un tas de problèmes sociaux qu'il y a pu y avoir, etc. Ça reste néanmoins un roman, qui n'est pas dénué d'humour. Hein, on n'est pas non plus dans quelque chose de lourd. Il y a des moments qui sont à suspense, évidemment. Mm-hmm. Elle se retrouve enfermée. Enfin, il y a tout un tas d'histoires comme ça. Mais en même temps, il y a toujours quelque chose, un contre-pied. Mais ça, c'est aussi j'aime bien quand même, quand on aborde des sujets très, très difficiles, qu'il y ait quelque chose qui amène un peu de légèreté quand même malgré tout.
Oui, bien sûr, c'est pas désespérant. Donc, j'imagine qu'on n'écrit pas pour un enfant de 13 ans comme on écrit pour un adulte. C'est quoi la différence?
C'est difficile à dire. C'est déjà un petit peu les sujets abordés, mais je me pose pas tellement la question, en fait. Il y a quelque chose d'inconscient, je sais que ça va être dessiné plutôt à des jeunes lecteurs,
oui,
mais en même temps, j'essaye de pas censurer, de pas me limiter. C'est après, avec l'éditeur, qu'on discute. Il y a certaines choses... mais parfois, c'est même l'éditeur qui me dit qu'il faut que tu ailles un peu plus loin. Par exemple, là, dans Ida la Bleue, il y a un personnage qui meurt... au cours du roman, qu'un personnage important, c'est presque l'éditeur qui dit c'est dommage, il faudrait qu'il y ait un peu plus, que ça soit un peu plus violent à des moments. Donc il y a aussi le travail de l'éditeur est très important, quel que soit de toute façon le travail d'écriture, ce qu'il peut apporter lui en regard extérieur en disant bah là c'est un peu long, là tu t'installes, ou là on comprend pas, ou là t'es un peu trop explicatif, ou là ça manque d'un rebondissement. Tout ça fait que c'est vraiment l'éditeur qui apporte aussi son regard important. Alors, pour en revenir à votre question, le fait que ça soit pour la jeunesse n'est pas pour moi un critère, dans la forme. C'est-à-dire que le sujet abordé, évidemment, ça s'adresse plutôt à un jeune public, mais à des jeunes lecteurs, mais c'est pas non plus... c'est difficile à dire. C'est pas...
Vous faites attention au vocabulaire quand même?
Un petit peu, mais pas toujours. Quand c'est un personnage qui parle, il y a certains éditeurs qui m'ont dit « C'est bien, mais il y a un peu trop de gros mots parfois. »
D'accord.
Bah oui, mais bon, le personnage, on ne va pas édulcorer son discours. Hein, les gamins de 12-13 ans, en plus, c'est pas, ils ne sont pas non plus... Voilà, il y a des critères comme ça, il y a une construction aussi, il y a un suspense vraiment qui doit être assez important d'un chapitre à l'autre. Mais c'est pas un critère absolu de dire c'est, je sais que c'est pour la jeunesse. J'ai écrit d'autres. Le premier roman que j'avais fait au Seuil, là, qui s'adressait à des un peu plus jeunes, c'est pareil, je me suis complètement laissé aller au personnage lui-même. C'est un peu le personnage qui décide un certain nombre de choses. Mm-hmm. Là, le personnage avait une dizaine d'années dans. Ça s'appelle le chapeau de Tétragonie. Eh ben, j'ai essayé de l'accompagner, puis de voir qu'est-ce qu'il ferait, qu'est-ce que je ferais moi à 11 ans dans cette situation, ou à 10 ans dans cette situation. Mm-hmm. Voilà, c'est plutôt comme ça que ça se.
D'accord. Alors, comme je vois que vous êtes très très bien occupé, puisque donc vous aviez déjà publié un jeunesse et Martha donc en 2024, mais vous ne vous êtes
23.
Pas encore.
2023,
oui. 23, pardon.
Oui, oui.
Excusez-moi. Mais vous avez aussi publié un recueil de nouvelles qui est Indéfectible, qui est publié aux éditions de La Lanterne, c'est ça ?
Voilà. Oui. Éditeur lyonnais.
Alors, ce sont des nouvelles avec un terme précis ou un thème précis où il y a.
Alors, c'est pas tout à fait un thème, mais c'est chaque nouvelle est liée à un événement. On est dans une chronologie, ça commence dans les années 60 jusqu'en 2020, les années 2020, et chaque nouvelle est liée à un événement. Par exemple, le 11 septembre, mais c'est pas l'événement lui-même qui m'intéressait, c'était de comment les gens autour réagissent par rapport à tel ou tel événement. Mmh. Donc, à chaque fois, l'événement, soit c'est l'élément déclencheur de l'histoire, soit c'est le décor, soit c'est la conclusion, mais à chaque fois, c'est lié. Alors, les personnages ne sont pas du tout récurrents, hein, comme dans un recueil de nouvelles, mais il y a une sorte de fil chronologique qui se déroule au fur et à mesure des nouvelles qui s'égrènent. Il y en a 20. Mmh. Et donc, voilà, ça permet de retracer aussi, en quelque sorte, avec un choix qui est totalement pas exhaustif, hein, totalement arbitraire, d'un certain nombre d'événements, le premier pas sur la Lune, mai 68, et puis ça va jusque les événements du Bataclan, etc. Voilà, il y a toutes ces choses-là qui servent vraiment de décor à chacune des nouvelles.
Alors, pour vous mettre dans l'ambiance, vous voulez bien nous lire une nouvelle qui est tirée de ce recueil, donc Indéfectible. La nouvelle s'appelle « Sous l'escalier ».
Voilà, j'en ai choisi une courte, comme ça je peux la lire entièrement. Et c'est une nouvelle qui se déroule... Non, je vous dirai après.
D'accord.
Maintenant, l'enfant est grand. Il vient d'entrer au CE2. Sa mère lui dit que cette année, il ira à l'école tout seul. C'est un peu comme une aventure. Comme le jour où son père a enlevé les roulettes de son vélo. Il sait surtout qu'il s'agit d'une grande responsabilité. Il a un peu peur, mais il est aussi très fier de la confiance de sa mère. Il ne veut pas la décevoir. Elle le guette depuis la fenêtre. Même si l'enfant connaît le parcours par cœur, elle lui a bien montré comment traverser la rue des Fauvettes. Arrivé près du boulevard, il attend le feu vert, franchit la chaussée, suit le trottoir jusqu'à l'autre carrefour, là où l'agent fait traverser les enfants, et arrive à l'école, rue des Champs-Fleuris. Juste en face de la grande église. Il regarde alentour et se demande où pourraient bien se trouver ces Champs-Fleuris. Il n'a jamais aperçu la moindre fauvette non plus. D'ailleurs, il ne sait pas vraiment à quoi ça ressemble une fauvette. En revanche, la grande église, il la connaît bien. Sa mère l'y emmène tous les dimanches. Après ce premier voyage en solitaire, l'enfant est rassuré. Il se sent fort. C'était comme une épreuve à passer. Et après quelques jours, le trajet ne lui fait plus peur du tout. L'enfant est sage et obéit toujours à sa mère. Chaque jour, il emprunte le même chemin. Il aime bien le petit signe que lui adresse la boulangère lorsqu'il passe près de sa boutique de la rue des Fauvettes. Aujourd'hui, elle est devant sa vitrine et lui tend un croissant. Comme l'enfant est bien poli, il remercie la boulangère et fourre le croissant dans sa poche. Il n'aime pas tellement les croissants. Ce matin, il remarque que sa mère ne l'observe plus depuis la fenêtre. Il décide alors de prendre la rue des Blés d'Or, puis de rejoindre le boulevard par l'avenue de la Persévérance, celle qui longe l'église par le côté. Évidemment, il sait très bien que sa mère ne lui permettrait pas de changer d'itinéraire. Mais c'est l'automne, et l'enfant aime bien les jolies couleurs des grands arbres du square derrière l'église. Il aime aussi le parfum doucereux de cette saison, le ciel contrasté. Et surtout, cette toute nouvelle sensation de liberté. Sur le côté de l'église, il y a un escalier en pierre qui donne sur une porte et fait comme un petit abri. Sous les marches, quelqu'un dort. L'enfant est intrigué, s'arrête, s'approche. L'homme relève la tête brusquement et la tourne vers lui. Par des gestes, il lui fait comprendre qu'il a faim.
puis il se gratte la barbe. L'enfant n'a pas peur. Il repense à la boulangère, plonge la main dans sa poche, sort le croissant rassis de son sac en papier et le tend à l'homme qui lui sourit. Dans sa bouche, il n'y a que deux dents. L'enfant sourit à son tour et court vers l'école. Il ne s'agirait pas qu'il arrive en retard. Au cours de la journée, plusieurs fois, l'enfant repense à l'homme sous son escalier en pierre. Il se demande comment on peut mâcher un croissant avec si peu de dents. « Alors, mon garçon, tu rêvasses ?» demande le maître. Le soir, comme sa mère vient le chercher, il est obligé de reprendre le parcours habituel. Il a beau tendre le cou, impossible d'apercevoir l'escalier caché par le presbytère. Le lendemain matin, dès que la mère a le dos tourné, juste avant de partir, l'enfant attrape un morceau de pain et le fourre dans sa poche. Sous son escalier, l'homme ronflotte. L'enfant attend quelques secondes, n'ose pas le réveiller, dépose le morceau de pain sur son épaule et file à l'école. « T'as l'air heureux ce matin, mon garçon !» dit le maître. Chaque jour, vers 8h20, l'enfant et l'homme barbu se font un petit signe. Ils parviennent à présent à échanger un mot ou deux, et un sourire qui ressemble plutôt à une grimace. L'enfant remarque que l'homme a un drôle d'accent, et sait maintenant qu'il s'appelle Mo. Soudain, la mère demande à l'enfant ce qu'il manigance tous les matins avec ce morceau de pain. « Ton petit déjeuner ne te suffit pas ?» Sa voix n'est pas douce, son visage renfrogné, ses sourcils froncés. L'enfant connaît bien sa mère. Il sait qu'elle est très en colère. Il voudrait lui parler des pigeons devant l'église ou des fauvettes du square, mais il ne sait pas très bien mentir. Et puis, il pense que donner un morceau de pain à un homme n'est pas forcément une bêtise, même si le type n'a que deux dents et ne connaît que trois mots. Alors il raconte tout à sa mère. Il ne sait pas pourquoi, subitement, elle s'étrangle, devient toute rouge et lève un bras au-dessus de sa tête. Ne comprend pas pourquoi elle crie « Ah non, ça va pas recommencer, les clandestins, ça suffit, on a déjà eu l'église Saint-Bernard cet été, ils ne vont pas nous refaire ça ici, chez nous, parce que faut voir, ça démarre sous l'escalier et ça finit par s'enfermer dans l'église, et après, il faut évacuer, avec humanité et cœur en plus, parce que on n'est pas des sauvages, nous. En tout cas, avec tout ça, j'espère que cette fois, ils comprendront et resteront chez eux. » Non. Il ne saisit vraiment pas ce qu'elle raconte, ni pour quelle raison précise elle se remet à l'accompagner chaque jour à l'école en lui tenant fermement la main. Il se sent rétrogradé au stade bébé. Mais malgré tout, l'enfant ne veut pas contrarier la mère. Il sait qu'elle a raison, puisque c'est une grande personne. Et surtout, c'est sa mère. Alors chaque matin, il la suit sagement rue des Fauvettes. Il se demande si son ami Mo n'a pas trop faim. Ce n'est que le dimanche suivant qu'il découvre, sous l'escalier en pierre, une statue de la Vierge en marbre blanc, posée délicatement sur un tapis de gravier, blanc également, bien entouré d'un grillage. « Ah, quand même !» dit la mère avec un grand sourire. « Il était temps !» Et puis elle tire l'enfant par le bras. « Allez, dépêche-toi, on va être en retard à la messe.
» C'est ça ce qu'on appelle la charité chrétienne, voilà.
En fait, elle fait allusion à l'évacuation de l'église Saint-Bernard. C'était en août 1996, donc à l'époque où Alain Juppé était Premier ministre, je crois. Oui. On avait évacué à coups de hache d'une église à Paris, des clandestins et sans-papiers. Voilà.
Alors que, comme je l'ai annoncé, vous êtes un homme très éclectique et vous abordez aussi bien le roman, la nouvelle, le roman jeunesse, le théâtre. Vous avez un genre que vous préférez ?
Non, j'ai beaucoup écrit de théâtre dans les années, depuis les années 80 jusqu'à pas très longtemps d'ailleurs. J'ai publié un certain nombre de pièces et je me suis par contre un petit peu détaché du théâtre pour des raisons aussi pour me consacrer aussi à autre chose. J'écris encore de temps en temps du théâtre. L'année dernière, j'ai écrit une pièce sur commande. Ça m'arrive encore. Et c'est vrai que... Alors, est-ce que j'ai un genre préféré? Parce que c'était la question... Non, c'est vraiment quand je suis immergé dedans. Là, je viens de terminer un roman court, on va dire, qui sera publié au Seuil en 2025, qui sera destiné aussi aux ados à partir de 13 ans, qui était au départ une grande nouvelle, une novella, que je dessinais. C'était en lien avec une autre maison d'édition qui publie des romans très courts. Et puis finalement, au Seuil, ils m'ont dit non, mais ça nous intéresse, est-ce que tu voudrais bien le développer? Donc c'est passé de la novella à un court roman. qui sera à peu près, enfin, qui fera une 100-120 pages. Mm-hmm. Mais du coup, voilà, je suis passé même là d'un genre à un autre avec autant de plaisir, on va dire, parce que ça permet de redévelopper des personnages, etc. Donc, c'est vraiment, non, il n'y a pas de, de genre préféré, on va dire.
Mais oui. Et qu'est-ce qui vous décide un bon matin d'écrire bah, ou une nouvelle, ou un roman pour enfants, ou un roman pour adultes?
Et bah, par exemple, cette nouvelle-là que je viens de lire, pour moi, c'est typiquement une nouvelle. Parce que c'est une histoire très courte, avec peu de personnages.
Une belle chute.
Avec une chute. Il n'y a pas toujours une chute comme ça, où, avec un twist à la fin. Mais, et puis, alors, parfois, certaines nouvelles qui commencent comme des nouvelles, comme celle que je viens de là que je suis en train de préparer, je me dis, mais en fait, il faut la développer, quoi. Mmh. Donc, ça peut aussi se... Ou parfois, on se dit, bah tiens, ça, c'est plutôt une des nouvelles de ce recueil, d'Indéfectible, la dernière, en l'occurrence, pourrait très bien être une sorte de monologue théâtral. C'est vraiment... C'est une personne qui s'adresse à vous directement, mais comme du stand-up, un peu. Donc... La frontière aussi là, est très perméable entre un genre, passer d'un genre à un autre. Ou parfois, j'ai aussi écrit des scénarios de films. C'est vrai qu'on s'aperçoit aussi que, à partir d'une pièce de théâtre, on peut la transformer en film. Quoi. Il y a tout un tas de passerelles comme ça entre les genres.
Mm-hmm. Et ça vous amuse de passer d'un genre à l'autre?
Oui, c'est assez excitant, je dois dire. C'est vrai que le voilà, bon, après, c'est beaucoup de temps. Hein. Écrire un scénario, c'est très très long. Donc. Voilà, bon.
Et vous êtes toujours comédien?
Bah oui, un petit peu, bah notamment dans le cadre de ce festival, la 12 000 signes, dans lequel je suis surtout lecteur, mais en même temps avec un petit, comment dire, un travail malgré tout, même si c'est nos lectures musicales qu'on propose dans le cadre de ce festival ne sont pas théâtralisées, ne sont pas jouées en quelque sorte, mais néanmoins, ça nécessite quand même de travailler sur le rythme d'un texte, etc., d'être en dialogue avec le musicien. Donc, un travail quand même malgré tout.
Oui, alors pour nos auditeurs, on va préciser que c'est le festival 12 000 signes qui se tient à Nancy tous les ans.
Tout à fait, au mois de novembre. Donc les prochaines dates, ça sera du 30 octobre au 10 novembre. Donc il y aura toute une première partie au cours de la fin des vacances scolaires pour les enfants, autour un petit peu d'Halloween, on va dire, des histoires à frissonner, on a appelé ça, donc dans toutes les médiathèques de Nancy. Mm-hmm. Il y aura notamment une date à la bibliothèque Stanislas, dans la salle du patrimoine. Donc là, on voudrait faire venir notamment des enfants d'ici, du Haut du Lièvre, qui descendraient. On aura aussi d'ailleurs une lecture ici au Haut du Lièvre, et puis dans d'autres, au Jardin botanique, à l'aquarium. Et puis dans la semaine qui suit, entre le 4 et le 10 novembre, il y aura des lectures à la Douéra, au Goethe Institut, à Lillebonne, etc. Mmh. Avec des auteurs invités, pour montrer aussi que la nouvelle n'est pas un sous-genre. Voilà, c'est un peu l'idée de ce festival, de mettre en voix et en musique les nouvelles. Et les gens, en fait, ils aiment bien, parce qu'on leur raconte une histoire courte comme ça, là. Mmh. Ça dure 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes. Et du coup, ça donne aussi envie. On a une librairie, on travaille avec... avec l'autre rive qui est, on a une table de librairie avec que des recueils de nouvelles. Donc voilà, je vous invite à nous rejoindre à ce festival.
Oui, et le public voilà. Vient et
oui, donc... oui, on a beaucoup de monde. D'ailleurs, comme les lectures sont gratuites, on fait maintenant un système de réservation parce qu'il y a effectivement beaucoup de monde. En plus, c'est dans des lieux où on veut garder une sorte d'intimité. Mmh. Donc, on est souvent limité à une jauge 80 personnes maximum. Donc, voilà, ça reste assez... ça reste intimiste.
Oui, d'accord. Et donc, vous êtes comédien, vous jouez encore à Nancy ou vous jouez ailleurs?
Ça fait longtemps que je n'ai pas... On ne me propose plus rien parce que je dois être trop vieux.
Oh, mais... Pourtant, il y a de beaux personnages de murs.
Ça fait... j'ai travaillé avec la compagnie Les Fruits du Hasard. J'ai créé plusieurs spectacles où j'étais ou comédien, ou metteur en scène, ou auteur, selon les spectacles. Mais ça fait effectivement maintenant quelques années que j'ai pas vraiment interprété un personnage sur un plateau autre que des interventions très ponctuelles. Voilà. Et puis je fais plutôt maintenant un travail de metteur en scène et qui est pas toujours compatible avec le fait de jouer. C'est toujours bien d'avoir un regard extérieur, donc je suis plus regard extérieur sur les spectacles, metteur en scène donc, que interprète, quoi.
Et vous avez joué des pièces que vous avez écrites?
Oui, beaucoup. Une des dernières dans la fin des années, en 2018-19, on a créé un spectacle qui s'appelait Noirceur. Donc c'était deux nouvelles, justement, qui étaient dans le précédent recueil, qui traitaient de deux faits divers nancéens. Donc c'était très très noirceur, comme son nom l'indique, dont l'un un petit peu connu, puisque c'était l'histoire de Simone Weber, qui vient de nous quitter il n'y a pas très longtemps. Mmh. Évidemment, revue et corrigée, hein, ce n'était pas directement son histoire. Donc c'était deux monologues, en quelque sorte, oui, deux monologues. Donc voilà, bon, ça c'est dont l'un que moi j'interprétais. C'était une sorte de diptyque.
D'accord. Voilà.
Et puis il y a eu d'autres pièces aussi, une pièce qu'on avait créée dans les années 2013-14 qui s'appelait Rewind, qui a été publiée dans une maison d'édition qui s'appelait Koiné. Là, j'étais metteur en scène. Voilà, donc il y a eu un certain nombre de pièces. Puis j'ai travaillé aussi avec d'autres compagnies comme interprète. Voilà, bon, enfin, je ne vais pas citer toutes les...
Alors là, vous avez des projets immédiats? J'ai vu qu'il y avait un livre qui était en cours de publication.
Alors, ben, il y aura un autre roman jeunesse qui va sortir au mois de novembre. Il s'appelle Les baskets du Père Noël, là, chez une autre, dans une autre maison d'édition, une petite maison d'édition qui s'appelle Le Jasmin, qui s'adresse aux, on va dire, aux lecteurs à partir de 10 ans à peu près. Donc, c'est une histoire très, très réaliste, qui est partie d'une des nouvelles que j'avais fait dans un autre recueil. Je suis parti du sujet du départ, et puis je l'ai développé, justement, c'était ce qu'on disait tout à l'heure. Et c'est devenu un roman. Donc, c'est l'histoire d'une petite fille d'une dizaine d'années qui est avec son papa, qui fait tous les ans le Père Noël devant le... On imagine le Bon Marché ou le... Voilà, et qui est un intermittent du spectacle, mais qui n'a pas très bien réussi, et qui croise un de ses anciens copains du conservatoire, qui le reconnaît, qui dit « Ah oh là, super, oh là là, mon pauvre, faire le Père Noël. Eh ben moi, si tu veux, l'année prochaine, je vais jouer dans le prochain film de Tim Burton. » Enfin bref, il se la pète devant... Et donc, la fille, qui s'appelle Blanche, voit son père se faire humilier par ce type, et dit « Mais alors, l'année prochaine, c'est toi qui joueras dans le prochain film de Tim Burton, pas l'autre, là. » Et donc, tout le processus, la construction de l'histoire va être comment cette petite fille avec sa copine, elles sont en sixième ou cinquième, vont faire pour que le papa puisse rencontrer Tim Burton et qu'il puisse jouer dans le prochain film de Tim Burton. Vont-ils y réussir?
Voilà.
Donc, la réponse en novembre.
Voilà. Donc, celui-là est déjà écrit et vous en avez en cours en ce moment?
Et donc, un autre roman jeunesse, donc cette histoire qui parlera de la chasse, là, un sujet très un petit peu engagé comme ça, pas tellement pro-chasse, on va dire. Donc, qui paraîtra là, en 2025, les dates ne sont pas encore arrêtées, qui est en cours de discussion avec le... Là, c'est qui sera au seuil, qui sera ce roman court, qui était une novella, qui devient un roman court. D'accord. Et puis, autre chose aussi en chantier, mais... ce qu'il y a, c'est que les livres qui sont publiés, par exemple, le Hydala Bleu, il a été écrit en 2019. Il y a eu le Covid, il y a eu un changement d'éditeur éditorial au seuil. Donc, j'ai changé d'éditeur. Donc, ça a pris pratiquement 5 ans avant d'être publié, quoi. Mm-hmm. Martha, c'est pareil. Ça a failli se faire dans d'autres maisons d'édition. Donc, entre les moments où c'est écrit et le moment où c'est publié, il se passe souvent un très, très longtemps, quoi. Mm-hmm. Donc, c'est pour ça que tout ça, ce sont des ouvrages qui sont en chantier depuis pas mal d'années, déjà.
Oui, d'accord. Eh bien, merci. Comme il nous reste quelques temps pour que Raymond ne soit pas venu que pour la cour de l'imaginaire, tu nous fais la lecture d'une nouvelle aussi? Étrange, oh, étrangère?
Étrangère, oui, un peu différente de la précédente.
Oui. De Quin, oui.
Étrange, étrangère. Il ne l'avait pas vue entrer. Pourtant, elle était là, assise près de la baie vitrée. Depuis combien de temps? Il se précipita vers elle et lui demanda: « Vous désirez, madame ?» Elle hésita un long moment avant de répondre « De l'eau des Pyrénées. » C'était bien la première fois qu'on lui faisait une telle demande. Il dut aller chercher la carte sur une table voisine. « Nous avons la Montcalm, l'eau de Luchon. »« Luchon, j'ai fait un grand voyage, je suis fatigué, un peu perdu. »« Reposez-vous, madame, restez ici autant de temps que vous le voudrez. » Il n'avait jamais dit ça à un client. De retour derrière le comptoir, il observa la dame. Une ample robe blanche descendait jusqu'à ses pieds, resserrée à la taille par une ceinture bleue. Posée sur sa tête, un châle encadrait son visage pour venir flotter sur ses épaules. Bon, avec les touristes, les vêtements exotiques ou extravagants ne l'étonnaient plus. De l'eau de Luchon, où l'ont-ils fourré? Ah, en voici une, la seule, la dernière sans doute. Quand il se releva, la dame se présentait à lui de profil. Elle regardait à travers la vitre, le regard tourné vers le toit des immeubles d'en face, comme s'il voulait s'évader. Il comprit pourquoi, l'instant d'avant, il lui avait fait cette offre extravagante, se reposer autant qu'elle le voudrait. La dame, avec sa large robe tombante et ses cheveux dissimulés sous un foulard, lui rappelait sa mère. Sa mère, qu'il n'avait pas revue depuis combien de temps déjà. C'est si loin, Ramallah, et ici, il a son travail. Il décapsula la bouteille et la déposa sur le guéridon. La dame se tourna vers lui. « Je me suis peut-être trompé. Pouvez-vous me dire où se trouve, elle hésita, cherchant ses mots, les Champs-Élysées. « Mais vous y êtes, madame. Ils sont là, sous vos yeux. Nous sommes tout près de la place de l'Étoile. »« L'Étoile, lui, bien sûr, » répondit-elle en souriant, comme si ce nom la rassurait. « Mais les Champs-Élysées, mon fils me demande chaque fois des choses plus difficiles. » Et comme il a lui tourné le dos, « Puis-je encore vous demander un renseignement, monsieur ?»« Mais bien sûr. » Il commençait à se régaler de sa voix et surtout de cet accent étranger. « Je devais apparaître à une jeune modiste, Gabrielle Chanel. La connaissez-vous ? Elle doit venir souvent ici pour que mon fils m'y envoie. » Rachid réfléchit un long moment. C'était un lieu de passage, pas un bistrot de quartier. Ici, on ne connaissait personne par son nom. « Je suis désolé, je ne connais pas cette personne, mais il y a tellement de monde. » Elle soupira, résignée, puis se tourna à nouveau vers la vitre. À un moment, un client l'appela pour encaisser. Il abandonna la dame à regret. Il aurait voulu lui demander d'où elle venait. Quand il eut terminé, un autre original lui demanda une bière russe. Il plongea à nouveau sous le comptoir. Quand il trouva enfin le temps de s'intéresser à la dame, elle avait disparu. Elle aurait dû pourtant passer devant le comptoir pour rejoindre la porte. Parti sans payer, c'est la première fois qu'on lui faisait ce coup-là. Il ne restait plus qu'à débarrasser le guéridon et régler la consommation. Le gérant était intraitable à ce sujet. Il restait encore de l'eau au fond du verre. Il se tourna pour vérifier que personne ne le regardait et siffla le reste de l'eau des Pyrénées. La mémoire lui revint aussitôt et l'endroit où il avait déjà vu la dame. Au mariage de Jean-Pierre, 6 mois auparavant, il était son témoin. C'était aussi la première fois qu'il pénétrait dans une église. Pendant que le prêtre officiait à l'autel, le regard de Rachid avait été attiré par un grand tableau dans la chapelle de droite. Flottant au milieu des nuages, elle semblait léviter au-dessus d'une couronne de roses. C'était le même costume et le même regard tourné vers le ciel.
La sienne est un peu plus colorée que la vôtre. Merci Raymond. Alors, au fait, avant de nous quitter, Benoît, je crois que vous avez une séance d'écriture au hall du livre bientôt.
C'est pas tout à fait une séance d'écriture, une séance de rencontre.
De signature, je veux dire.
D'écriture peut-être, s'il faut que je signe quelques livres, j'espère.
Voilà, c'est ça, oui.
Oui, il y a une rencontre qui est prévue donc, au hall du livre le samedi 22, donc, le 22 juin, à 11h.
D'accord.
Donc, voilà, j'y lirai aussi probablement un extrait, a priori, ou du recueil, ou de Ida la Bleue. Donc c'est organisé par le hall du livre et particulièrement par le stand de la jeunesse à hall du livre. Voilà.
Alors merci à Benoît Fourchard d'être venu nous présenter son roman Martha, publié chez Feedback Éditions, son recueil de nouvelles Indéfectible, publié aux éditions de La Lanterne, et son roman jeunesse Ida la Bleue, publié au Seuil. Merci à Raymond Riss qui nous a présenté le concours d'écriture organisé par la Cour de l'Imaginaire et pour sa lecture de... Étrangère. Merci à Joris qui était à la technique aujourd'hui. Au revoir à tous et nous quittons avec Janis Joplin. Don't you know?
for the end of the road. You might find out later that the road will end in Detroit, or the road will even end in Kathmandu. You could go all around the world trying to find something to do with your life, but when you only gotta do one thing well, you only gotta do one thing well to make it in this world, babe. You got a woman waiting for you, dear. All you ever gotta do is be a good man one time to one woman, and that'll be the end of the road, babe. I know you got more tears to shed, babe. So come on, come on.